Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 31. Une Heure en Série, je le rappelle, l'émission qui, chaque semaine, décrypte toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes et plateformes confondues. Et ce soir, nous parlerons course-poursuite et banlieue explosive dans Caïd sur Netflix, personnages en quête d'auteur et acteurs en quête de théâtre dans Staged sur Canal+, et enfin enquêteur tête à claque et intrigue casse-tête avec commandant Bigström, qui est presque bien prononcé, sur France 3.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, Ariane Allard, de Cosette et de Positif. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Christine Haas qui va vérifier mon accent suédois tout au long de l'émission. Bonsoir Christine.
C'était parfait, bonsoir Xavier.
Oh, vous êtes trop gentil. Et Benoît Lagane, bien sûr.
Bonsoir.
Le 5-7 de Mathilde Munoz, bien sûr, et Télé Matin. Et nous commençons notre soirée avec une série punch, une série de jeunes. C'est Caïd, française, série française. 10 épisodes de 10 minutes chacun, disponibles sur Netflix, et qui rencontrent d'ailleurs plutôt un joli succès, si on en croit les chiffres annoncés par la plateforme. De quoi que ça cause. Venu depuis Paris pour tourner un clip dans une banlieue pour la moins inflammable du sud de la France, un réalisateur et son caméraman se retrouvent piégés dans une guerre des gangs particulièrement violente. Seule solution pour tenter de sauver leur peau, courir très vite et éviter de se retourner. Les nombreuses caméras portées qu'ils avaient embarquées avec eux enregistrent cette course-poursuite rehaussée à l'écran par un montage particulièrement efficace. Une série nerveuse donc, avec ce qu'il faut de coup de théâtre pour relancer l'action et maintenir l'intérêt du téléspectateur.
Tiens, c'est bon, il y a tout qui marche là ?
Et aujourd'hui, en fait, le label nous demande de lui faire un clip et de filmer son quotidien en fait.
Fais ta caméra.
Et arrête de stresser, c'est moi, Tony. C'est vrai, ouais, c'est moi.
C'est pas Spielberg.
Spielberg.
Oh non, mais te fous pas de ma gueule là, Bruno. Vous m'envoyez où là?
Tu pourras pas gérer le réseau et un même pas être serveur.
C'est pas incroyable ce qu'on a fait aujourd'hui.
C'était dingue ce qu'on a fait. C'est quoi perdu pour perdu, on continue à shooter.
Une série en pur et très viril hommage à la série B écrite par Nicolas Lopez et Ange Bastergade après leur propre film, Film pour mémoire, qui avait remporté en 2017 le grand prix du festival du film policier de Cognac. Une série, on l'a compris, en immersion anxiogène, vrai faux documentaire en direct, interprété par Abdraman Diakité, Sébastien Oubani et Idir Azougli. Alors, la presse est un peu divisée. Il y a ceux qui défendent la série, Les Échos par exemple, qui ont aimé cette série qui détonne et surprend dès les premières secondes par sa réalisation incisive et fiévreuse. Même son cloche pour première qui salue cette immersion à couper le souffle. En revanche, Télérama déplore que les auteurs oublient les règles du récit sériel et refont un film coupé en tranches de 10 minutes. Pour parler d'une série comme celle-là, il faut quelqu'un qui ait de la testostérone à revendre. En tout cas, autour de cette table, c'est celui qui en a le plus. Et mec, évidemment, il s'est reconnu. C'est Benoît Lagane.
Ouais, je suis l'homme qui tombe à pic.
Voilà. Des promesses, toujours des promesses.
Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec Les Échos et Première, même si je comprends ce que peut dire Télérama, parce que il y a quelque chose dans la mécanique de cette histoire où on sent bien que derrière, il y a eu un film, en gros, de 2 heures. D'ailleurs, si on regarde les épisodes comme Netflix nous les propose avec toutes les 10 minutes, les scènes s'enchaînent. Grosso modo, on voit un long métrage. Mais je trouve que le découpage est quand même malin. D'ailleurs, c'est pas que 10 minutes, c'est parfois 8, parfois 15, et c'est toujours découpé au bon moment, ce qui nous donne envie de voir la suite. Donc moi, je trouve que quand même la mécanique sérielle est à l'œuvre dans Caïd. Ce que moi, j'ai particulièrement aimé là, dans cette série, c'est le côté effet Blair Witch. C'est-à-dire que ils ont la caméra, ils filment et on est vraiment embarqué avec eux. On fait qu'on flippe vraiment avec eux. Alors on voit les hommages aux films de gangsters, à toute la culture qui nourrit justement la culture banlieue aussi et la culture cité.
Donc tout les ça, jeux vidéo également.
Les jeux vidéo également.
Grande influence.
Et donc tout ça est très présent dans cette série et qui fait que au fur et à mesure des épisodes, on a vraiment peur pour cette équipe de réalisation. Moi, je me suis dit mais cassez-vous. Alors, j'étais tout le temps devant mon écran pour me dire mais cassez-vous. Donc c'est quand on a cet effet-là sur nous en tant que téléspectateur, c'est que ça marche. Peut-être que ce que j'aurais aimé et qu'une série plus ample aurait pu se faire, c'est autour de la dimension sociologique de la cité qui est évoquée malgré tout. Et ça, c'est intéressant quand on voit ici un grand frère, un animateur qui regarde la caméra et qui dit « Pourquoi vous venez filmer encore que des caïds ? Vous venez toujours dans les cités pour filmer ça ?» Je trouve que donc il y a des, par exemple, ces questions-là qui sont abordées. L'épisode très beau autour de la mère d'un des caïds. Ils vont chez elle.
Le quatrième ou cinquième épisode de
Mémoire. Il y a de la tendresse. Et je me dis que ce monde des cités aurait mérité d'être plus montré. Peut-être que la série aurait permis ça. Mais allez, mis à part ces quelques réserves, moi j'ai vraiment passé un grand plaisir devant Khalid. J'ai eu beaucoup de plaisir devant Khalid.
Christine, ces beaux garçons qui se poursuivent les uns les autres, ça ne vous a pas laissé indifférente,
bien sûr. Moi je suis assez d'accord avec mon camarade Benoît. C'est vrai que c'est une immersion qui est pleine d'énergie et d'électricité. C'est rapide, fiévreux, fougueux. On a une espèce de parti pris esthétique, mi-documentaire, mi-fiction, avec cette caméra à l'épaule qui est assez efficace. On est dans une tension qui stimule l'adrénaline, etc. Mais toujours dans les histoires de gangs, on est un peu aussi dans les clichés, hein, l'univers impitoyable de la cité qui est toujours associé au rap. Alors on pense à Valider, hein, forcément, parce que c'était un gros succès de Franck Gastambide qu'on avait beaucoup aimé, nous, et où un rappeur de talent était également coincé dans un environnement qui n'encourageait pas l'autonomie. Mais c'était quand même peut-être un peu plus abouti pour des raisons de budget, sans doute. Et alors ici, le système D pallie le manque de moyens. Et clairement, la place laissée à l'improvisation révèle aussi la limite du jeu des acteurs. À mon avis, les dialogues sont souvent un peu appuyés, les confrontations un peu outrées, voire franchement ridicules par moments, je dois dire.
J'ai pas trouvé.
Franchement, les personnages toujours agressifs, en colère, en permanence au bord du pétage de plomb.
Enfin, ils baissent pas la garde, ça c'est sûr.
Voilà, ils baissent jamais la garde. On voit bien le piège de la banlieue où la seule issue possible est celle de la violence et du trafic de drogue. On découvre véritablement cette économie souterraine. Mais moi, je suis assez d'accord avec Benoît quand il parle de ces moments trop brefs où on découvre aussi les personnages touchants dans leurs contradictions, leur enfermement, de même que les personnages féminins comme la mère de l'un, la sœur aînée de l'autre, qui apportent un contrepoint intéressant, mais qui aurait dû être un peu approfondi. Il y a de belles scènes émouvantes où ils posent les armes et tentent de se calmer le temps d'une tasse de thé. Il y a le beau personnage dont tu parlais aussi, qui est celui de l'éducateur, qui cherche à montrer un exemple plus positif de la cité. Ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, ils veulent pas que Tony soit le seul exemple de la cité pour les jeunes, hein. Deal, rap, prison et mort certaine. Et puis, bon, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui auraient pu être un peu plus fouillées, des choses intéressantes comme Franck, le personnage du clipper qui est perverti par la violence ambiante et qui commence à se prendre au jeu, hein, qui commence à se prendre lui aussi pour un caïd, alors que son cadreur, lui, voit bien les dangers réels. Et on est quand même un peu frustré par la fin, un peu en hors-champ, brutal, en hors-champ, où on a essentiellement le son pour nous raconter l'histoire. Et ça, bon, je dois dire, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim.
Ouais, j'aime bien, c'est l'audace de terminer aussi l'épisode sur une ou deux minutes, pratiquement dans le noir, uniquement avec des bruits. On voit juste le voyant lumineux de la caméra qui clignote sur plus de batterie. Je trouve que c'est une façon plutôt habile de terminer là.
Mais ça ouvre peut-être sur une suite, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, effectivement, ça ouvre sur la possibilité d'une deuxième saison. Ariane, en termes même de cinéma, de montage, de nervosité, c'est quand même pas inintéressant.
Non, moi je ne partage pas du tout votre enthousiasme, je suis désolée.
J'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu.
Je suis vraiment rentrée dedans à reculons déjà, et j'en suis sortie assez soulagée. Donc vous voyez la trajectoire. Je trouve que c'est quand même un défilé de clichés, c'est-à-dire associer systématiquement le quartier aux dealers, aux rappeurs, aux voyous, aux caïds, avec cette violence permanente, avec ces « je m'en bats les couilles » en permanence, parce que c'est quand même ça aussi les dialogues. C'est-à-dire que c'est tous les clichés, et pour reprendre ce que disait Christine sur les femmes, il y a trois personnages de femmes. Il y en a une, c'est une garçonne qui parle aussi mal et qui veut faire la guerre aussi comme les autres. Il y a la mère, toujours la grande figure maternelle, intouchable, pleine de tendresse, qui vient servir les petits gâteaux. Et il y a la sœur, c'est toujours la même, la sœur qui vient effectivement raisonner. Et la sœur, on ne la voit que dans la cuisine, on ne la voit jamais à l'extérieur. Donc moi, voilà, ça un petit peu agacé. La seule chose...
C'est pas tout à fait vrai, vous êtes un peu de mauvaise foi.
On la voit très peu à l'extérieur.
Mais c'est pas grave,
non,
c'est
mais les moments de sermon entre le frère et la sœur, ça se part dans l'appartement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La seule chose, moi, qui m'a intéressée, c'est le personnage de Franck. C'est-à-dire que le premier épisode, je me suis dit, ok, je vais jamais tenir les 10 épisodes.
On va rappeler qui est Franck pour ceux qui ne
l'ont pas vu. Franck, c'est le réalisateur du clip. Voilà. Et c'est en fait un journaliste qui fait ça parce que, bon, visiblement, il gagne très mal sa vie, il n'arrive pas en vie de son métier de journaliste, donc par défaut plutôt que par choix, il se retrouve à faire des clips de rappeurs. Et là, il est plongé dans la violence. Le premier épisode, donc, était quand même un amoncellement de clichés. On le voit complètement sidéré, terrifié, etc. Et le deuxième épisode et le troisième épisode, qui pour moi sont les plus intéressants, c'est le moment où il y a cette bascule, où tout d'un coup, il se dit, tiens, mais si... En fait, il est en train de m'arriver un truc hyper intéressant professionnellement et moi, j'ai envie de faire quelque chose de ça. Évidemment que c'est aussi une réaction assez cynique hein, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Et moi, je trouve ça intéressant parce que tout d'un coup, je me suis dit, il y a un vrai point de vue. C'est pas seulement juste du mimétisme. C'est-à-dire, tu parlais de Blair Witch, moi, c'est Scarface hein, quand même, le modèle ultime de ce truc.
Même dans la façon dont c'est réalisé.
Et tout d'un coup, le point de vue, le vrai point de vue qui arrive du film, c'est celui des réalisateurs. C'est-à-dire que Franck, il sait qui. En fait, il y a une espèce de mise en abîme de nous, probablement. C'est-à-dire que c'est ce mélange de voyeurisme et on est quand même attiré par cette violence et en même temps elle nous répulse et on est exactement par rapport à lui, on est exactement ça. Et tout d'un coup, moi j'ai eu une entrée que je n'avais pas jusqu'à présent, peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que je ne vis pas dans ces cités. Et cette entrée-là, je l'ai eue par son intermédiaire, même si ce n'est pas un type sympathique par ailleurs.
Merci beaucoup. Chrissier, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, j'étais à peu près d'accord.
Et bien alors concluons, Caïd, la série française sur Netflix.
Maman veut du love, maman veut du love. Quand je m'envole, je vois les autres. Quand je me relis, je vois mes fautes. Y'a du pilon dans ma rue. Un peu plus loin, y'a de la blanche. En bas de chez moi, les rustlers n'ont pas d'amour à revendre. Je me sens sali comme la street. Je me sens trahi comme l'Afrique. Je mets mes enfants dans ta gorge. Je m'endors dans la Ventador. Viens dans ma ville, tout le monde tire. Viens dans mon bloc, tout le monde deal. Viens dans mon monde, tout le monde meurt. Viens dans mon cœur, tout le monde pleure. La nuit, ma vie n'a plus de refrain. Joue à la roulette russe avec le chargeur plein. Le jour se lève, je ferme les yeux. Je ne vois que, je ne vois que, je ne vois que, je ne vois que dans le noir. Pourtant tes yeux sont verts, bébé ne m'en veux pas. Tu sais, j'ai tant souffert si je ne rentre pas ce soir. C'est que je me suis fait fumer si je ne rentre pas ce soir. C'est que je me suis fait fumer. J'ai traîné, traîné dans le Jagger. Traîner, traîner dans le Jaggers. Aisez, mes aisez, gazer. Maman veut des loves, maman veut des loves. Mais dit que l'argent ne fait pas tout. Certains millionnaires sont pauvres. La vie n'a pas vraiment de fin. La pluie n'a pas de saison. Les perdants ont des excuses. Les vainqueurs ont des raisons. Regarde à travers la buée et regarde à travers la fumée. Regarde c'est avec qui je marche. Car c'est eux qui vont me tuer. Viens dans ma ville, tout le monde tire. Viens dans mon bloc, tout le monde dit. Viens dans mon monde, tout le monde meurt. Viens dans mon cœur, tout le monde pleure. La nuit, ma vie n'a plus de refrain. Joue à la roulette russe avec le chargeur plein. Le jour se lève, je ferme les yeux. Je ne vois que, je ne vois que, je ne vois que, je ne vois que dans le noir. Pourtant tes yeux sont verts, bébé ne m'en veux pas. Tu sais j'ai tant souffert si je ne rentre pas ce soir. C'est que je me suis fait fumer si je ne rentre pas ce soir. C'est que je me suis fait fumer. J'ai traîné, traîné dans le Jaggers. Aisez, mes aisez, gazer. Traîné, traîné dans le Jaggers.
Dinos par Césaire, extrait du troisième album intitulé Stamina de ce rappeur martiniquais dont le nom est un hommage évident au poète Aimé Césaire, c'est plutôt un bon point d'ailleurs. Un artiste découvert au début des années 2010, un album plus mélancolique porté par des textes d'une belle teneur littéraire, contemporain et qui disent les regrets et les doutes de son auteur. Dans ce texte-là, par exemple, on a entendu sa peur de la mort. Et je trouve que voilà, ça donne une teneur littéraire très intéressante à cet artiste.
France Inter. Une heure en série.
C'est l'heure du petit conseil littéraire et je vous recommande la découverte de « Laisse pas traîner ton fils » de Rachid Santaki aux éditions Filature. Un livre témoignage réaliste mais avant tout citoyen qui raconte par le détail souvent éprouvant mais indispensable le martyr de Mathieu, un jeune adolescent assassiné brutalement par trois bourreaux à peine plus âgés que lui. Trois ados qui s'acharnent sur le jeune homme, lui-même piégé par son meilleur ami, une victime collatérale d'un règlement de compte qui tire ses racines dans un trafic minable. Mais laissez coup de poing de Rachid Santaki, qui s'est inspiré d'un véritable fait divers, ne s'arrête pas là. Cet auteur, pardon, je tourne ma page, impliqué dans la réalité sociale par le biais d'ateliers de lecture et d'écriture réalisés en milieu carcéral, raconte le procès des meurtriers et sa propre expérience de témoin et d'acteur, malgré lui, de ce drame que d'aucuns penseraient banal, mais qui ne l'est jamais. Une descente vertigineuse dans les tréfonds de la violence urbaine, magistralement écrite avec ce qu'il faut d'implication et de distance, un jour le jour qui analyse les rouages d'une violence cyclique broyant une jeunesse égarée, sacrifiée, mais pas innocente pour autant, et que l'auteur dépeint ici sans moralisme, sensationnalisme, ni raccourci sociologique. Vivement recommandé, si vous me permettez ce conseil. Laisse pas traîner ton fils de Rachid Santaki aux éditions Filature. Deuxième débat plus léger, hein. La série en tout cas est plus légère que la précédente et nous allons parler de Stage, une série anglaise disponible sur MyCanal, une série pour de vrai et pour de faux. Nous sommes en Grande-Bretagne durant le tout premier confinement. David Tennant et Martin Sheen, deux brillants comédiens anglais privés de toute activité et s'ennuyant ferme dans leur demeure, acceptent le projet d'un metteur en scène de répéter par Zoom la pièce de Pirandello, six personnages en quête d'auteur. Les comédiens sont un peu sceptiques, mais leur envie de jouer balaye leurs réserves. Cet été-là, sans compter sur l'amateurisme du metteur en scène qui squatte chez sa sœur, et sur la guerre d'égo des deux têtes d'affiche, ainsi que sur le fait de devoir annoncer à une immense star américaine qui devait être de la partie, hélas qu'on a dû le remplacer au dernier moment.
Coconut water, one bagel, grapes, pita bread, leftover lasagna, two carrots, feta cheese, and the remains of an Easter egg.
No. Well, nothing.
Just warm up the lasagna.
I promised I would cook.
You have nothing of culinary value.
I have two carrots.
Then cook the carrots!
You're no help.
Une série où tout est confiné, sauf l'écriture brillante et l'humour étincelant. David Tennant et Michael Sheen, merci Benoît de m'avoir repris pendant la diffusion de l'extrait de la bande originale, la bande annonce, puisque je l'avais rebaptisé Martin. Donc David Tennant et Michael Sheen, qui ont récemment travaillé sur Good Omens, s'amusent et nous avec de cette comédie acide où chacun joue son propre rôle, tout comme Simon Evans, qui interprète le metteur en scène maladroit. Alors, dans la vraie vie, Simon Evans est un nom réputé de la scène britannique. Il est d'ailleurs à l'origine de cette série, aux côtés de Finn Glynn. Ajoutez à cette distribution quelques stars, parmi lesquelles Dame Judi Dench, pas n'importe qui quand même, venue également jouer cette jubilatoire partition de l'autoparodie, et vous obtenez une brillante comédie en forme de mise en abîme, ainsi qu'une savoureuse variation sur l'art du théâtre en temps de confinement. Vous connaissez mon avis plus que positif sur cette série, à vous de me donner le vôtre. Et il nous fallait la reine de l'humour, évidemment, pince sans rire, c'est Christine Haas, bien sûr, vous êtes sacrée, voilà.
Ouais, voilà. Non mais c'est vrai que cette série est complètement ne ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'ici. Hein. C'est vrai.
C'est du parce zoom. Il faut prévenir les téléspectatrices.
Bon, tout se passe en zoom. Effectivement, ils sont coincés dans les petites lunettes là. Et puis la majorité des participants, dont certains sont quand même très connus, vous l'avez dit, jouent une version exagérée, voire caricaturale d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que Sheen et Tennant se sont connus sur Good Omens, où l'un jouait l'ange, l'autre jouait le diable. Ils sont devenus amis. Et là, Simon Evans leur propose de répéter six personnages en quête d'auteur. Et histoire de faire son intéressant, Sheen commence par dire « ça tombe bien, je parle italien ». Ce qui est faux, évidemment. Hein, et c'est le premier des nombreux mensongers et exagérations qu'on va entendre. Au moindre problème, il y en a toujours un des deux pour dénoncer l'autre, voire carrément le trahir. On sent bien que le duo est moyennement motivé par les répétitions et que Simon Evans joue le pauvre réalisateur forcé de zigzaguer entre ses deux égos gigantesques, tandis que nos zigotos se comportent comme des véritables sales gosses. Hein, entre confidences intimes et échanges professionnels, ils sont chaleureux, attentifs, mais également rivaux et férocement compétitifs. Donc, ils s'ennuient ensemble sur Zoom et ils jouent à la bataille navale, ils font des mots croisés, ils comparent leurs œuvres picturales, l'un a dessiné un ananas digne d'un enfant de 5 ans, l'autre a peint un paysage hyper impressionnant. Donc ils ont ce grand sens de la dérision britannique et ils s'amusent follement quand ils se moquent d'eux-mêmes, à commencer par leurs accents, l'un gallois, l'autre écossais, qu'ils imitent de manière hilarante. Ensuite, ils ne sont pas vraiment gâtés physiquement. Hein. Sheen, qui est surnommé la légende galloise poilue, est carrément hirsute. Et Tennant a fusionné avec un unique sweatshirt qu'il ne quittera jamais. Ils sont tellement adroits qu'on ne sait jamais vraiment ce qui est écrit ou improvisé. On est dans un huis clos plus vrai que vrai. C'est du grand n'importe quoi où Sheen arrive à perdre la boule, à ausculter son jardin, où il voit les oiseaux dignes du film d'Hitchcock et dit « Je te vois, petite merde à plumes !» Tandis que Tennant considère que faire la cuisine, qu'il fait la cuisine quand il réchauffe les lasagnes de sa femme.
Donc, c'est ce qu'on a entendu dans la bande-annonce tout à l'heure.
Tout n'est pas faux, puisqu'on est chez eux. On entre dans leur vie. Et puis, David Tennant donc, vit dans l'ouest de Londres avec sa vraie femme, Georgia Moffett,
qui est productrice
de l'émission, qu'il a rencontrée en tournant Doctor Who, elle-même étant la fille d'un ancien Doctor Who, Peter Davidson, elle vient de la famille. Ils ont eu ensemble 4 enfants, dont un 5e qu'elle avait eu d'un autre mariage et qu'il a adopté. Donc, il y a du monde dans la maison. Et on s'aperçoit que sa femme fait une énorme lessive. Et puis, pareil pour Michael Sheen, qui est chez lui à Port Talbot, au Pays de Galles, avec sa nouvelle femme, Anna Lundberg, qui a également eu un bébé. Et le zoom se calque sur les siestes des enfants. Donc on est toujours très proche des acteurs, très proche des deux femmes qui sont devenues copines avec ce projet. Et on apprend à travers elles qu'il y a eu pas mal d'improvisation après quelques verres de vin.
C'est toujours bénéfique de toute façon. Avec modération, je suis obligé de le dire parce que nous sommes sur le service public. Benoît Lagane.
Oui, enfin, Christine a tout dit sur.
Bah oui, c'est un peu siphonné l'argument.
Non, mais.
Mais il en reste, la série est tellement riche.
Dire que c'est un très grand plaisir, effectivement, de suivre ces deux comédiens cabotinés. Alors, moi, là où pour donner quand même un peu plus d'informations, c'est pas que du zoom. Il y a quand même des séquences où ils se tournent chez eux en train de discuter entre eux. Donc, qui viennent et c'est.
Il y a des plans de coupe sur Londres aussi.
Voilà, il y a des plans de coupe ou sur la campagne anglaise aussi. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi tout ce que ça ne dit pas, mais que ça dit en fait en sous-texte sur aussi les cultures théâtrales, les cultures aussi entre l'Angleterre et Hollywood, parce que sans trop dévoiler, mais on va
gardons
pas dévoiler.
Les surprises,
gardons les surprises, mais ils vont être en communication avec des Américains. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit la différence de culture. Alors, ça passe par les deux accents différents, mais ça passe aussi entre l'Angleterre d'un côté et l'Amérique de l'autre. Donc voilà, sans
trop
bander.
Mais ça, c'est la saison 2 plutôt. Hein.
Ça commence dans saison 1 et c'est dans la bascule de la saison 2.
Les deux sont diffusés de toute façon sur ma chaîne.
Ouais, mais c'est vrai que, par exemple, pour revenir sur l'Amérique, c'est vrai que Whoopi Goldberg, par exemple, qui joue l'agent. Ne peut pas s'empêcher de leur dire que s'ils sont des stars en Grande-Bretagne, en Amérique, ils ne sont rien.
Oui, mais c'est pas complètement faux.
Voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette façon aussi dont la série s'amuse de ce qu'est la culture officielle et de ce que serait la culture populaire. Et dans le fait que, vu qu'ils sont chez eux, dans leur maison, avec leur famille, avec leurs enfants, bah, du coup, il y a un goût de la culture populaire dans laquelle vient s'inviter Pirandello et une grande culture qui serait sans, a priori plus grande que ce qu'ils veulent faire. En fait, personne ne veut faire cette pièce. Hein, parce qu'il faut, le seul qui veut un peu, c'est David Tennant. Pour quelle raison? Parce que sa femme a peur qu'il s'emmerde, tout simplement.
Ariane.
Il ne va plus me rester grand-chose à dire.
Mais si. Donc, non, sur le jeu des acteurs, c'est passionnant quand même.
Il y a deux choses qui vous n'avez pas forcément évoquées. La première, c'est que je trouve que c'est quand même une grande leçon de liberté qui est donnée par cette série. Et pas seulement une leçon de liberté en termes d'écriture, mais aussi une leçon de proximité. On oublie quand même qu'on est tous plus ou moins confinés. Et je trouve que ça crée un sentiment de proximité formidable avec les spectateurs par le biais de l'humour, mais aussi par le biais de la situation, tout simplement. C'est très basique ce que je dis, mais il faut quand même aussi y avoir pensé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en dehors du fait que j'ai trouvé ça absolument tordant, hein. Moi, j'ai beaucoup ri, ça faisait très longtemps que j'avais pas ri comme ça, toute seule devant mon écran d'ordinateur. La deuxième chose qui m'a intéressée, c'est assez subtil, mais ça parle quand même aussi beaucoup de la fragilité des gens du spectacle. Alors, bien sûr, cette fragilité, on la voit parce qu'ils sont confinés, mais ça parle de l'amour du verbe, parce que c'est quand même une série qui travaille beaucoup le dialogue, et c'est extrêmement bien écrit, c'est vif, c'est rapide. Enfin, moi, j'ai trouvé ça formidable. ça parle du plaisir de jouer, parce que comme ils ne peuvent plus jouer, ils jouent entre eux. Ce que tu disais, quand ils jouent à la bataille navale, bien sûr qu'il y a un côté régressif, mais c'est de toute façon être toujours dans le jeu, et surtout, bon, ils n'ont pas de public, c'est ça qui leur manque. Et puis ça parle aussi de la cruauté de ce milieu, surtout dans la saison 2, je trouve, hein, puisqu'ils vont, je dévoile pas trop, mais ils vont être évincés d'une certaine façon, je ne peux pas aller plus loin, voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est quand même à la fois une satire, on est dans l'autodérision, comme disait Christine, mais on est ici dans l'hommage. Et je trouve que ça, c'est deux versants, c'est quand même, les Britanniques sont très forts pour ça. C'est-à-dire qu'on alterne entre l'émotion, le rire, et c'est sans arrêt des allers-retours comme ça. Et je veux dire une dernière chose, c'est que les femmes, quand même, au départ, on les voit, elles interviennent juste de façon un petit peu ponctuelle dans la série. Elles apparaissent, elles disparaissent, etc. On se rend compte qu'en fait, c'est elles qui tiennent la baraque, c'est elles qui tiennent tout, que ces deux hommes sont juste... Alors, il y en a un qui est quinca, l'autre qui est quadra. Ils sont juste avec des femmes qui ont à peu près la moitié de leur âge, quand même, incidemment, hein, je le dis comme ça en passant. Et c'est quand même elles qui tiennent toute la baraque. Et à la fin, si vous allez jusqu'au bout de la saison 2, il y a quand même une saveur très particulière, un petit peu crypto-féministe, que j'ai trouvé super drôle. J'en dirai pas davantage.
Non, mais là où j'ai dit que c'était quand même aussi un hommage au jeu du comédien, il joue dans des espaces extrêmement réduits,
oui,
proches de la caméra, il se dirige eux-mêmes d'une certaine manière, et il joue avec tout ce qu'il est possible de
oui,
jouer.
Absolument.
Le corps, les bras, enfin, il y a vraiment une culture aussi.
Et le verbe.
Et le verbe, bien sûr. Ouais. Mais tout est impliqué, et c'est extrêmement intéressant.
Et les accents.
Christine
les
parlait accents. Des costumes, effectivement, David Tennant, qui est réputé pour être un acteur oui. un peu élégant, on va oui. dire, il se désélégantise de manière absolument
mais là, de
savoureuse.
Cheveux.
Mais ce que dit Ariane est très vrai, ce que ça fait sur le téléspectateur, c'est qu'en fait, ça nous montre notre propre folie et nos propres travers.
C'est l'effet miroir.
Voilà. Mais complètement, c'est-à-dire le fameux Chine avec les oiseaux d'Hitchcock, mais pendant le premier confinement, est-ce qu'on n'a pas à un moment donné ouais. eu peur des oiseaux qui prenaient ouais. de la place dans nos campagnes, par exemple? Donc c'est là où c'est un très beau texte, mais c'est surtout quelque chose de très très personnel qui renvoie vraiment à des choses très intimes.
On vous la recommande évidemment oui. de façon forcenée, Stage 2 saisons, disponible sur MyCanal.
Too far in it, too far gone. She knows what's in it, she knows what's wrong. She just can't quit it, her heart's so numb. Hers to live it, but worse to run. You're not mine to tend to you.
Addicted par Georgia Smith, 5 ans déjà que celle que la presse britannique surnomme la nouvelle diva de la pop et de la R&B règne sur la soul britannique, un titre qui sacre l'élégante fusion entre sensualité et rythmique saccadée pour souligner un texte engagé en hommage aux femmes noires. Addicted annonce la prochaine sortie d'un deuxième album studio de Georgia Smith.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et ce samedi, c'est la défaite de la France au rugby face à l'Écosse au tournoi des Six Nations. Là, je vous lis parce que je n'y connais rien du tout. Qui vous a rappelé à votre bon souvenir Allez, la rafale, une série que les moins de 45 ans, même de 55 ans, ne peuvent pas connaître.
Ah, c'est une série qui était diffusée en 1977, année de naissance de notre président, sur Antenne 2. Allez, la rafale, c'est donc une série en 6 épisodes de 50 minutes que Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby, devrait revoir avec Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, pour qu'il se change les idées après la défaite, effectivement, 27 à 23. Un joli moment de nostalgie qui rappellera d'ailleurs des souvenirs à Fabien Galthié, qui a débuté dans l'école de rugby de Tournefeuille. Écoutez bien ça, Xavier. Fondée par son père, l'année de la diffusion de cette série, en 1977, donc.
Bon, d'accord, mais pour quelle raison faudrait-il qu'ils voient ou revoient tous cette série?
Et bien d'abord et avant tout parce que cette série, très donc camionnesque, hein, permet de passer, malgré l'usure du temps, un agréable moment avec des personnages pittoresques. Et quand on a le blues comme les Bleus, ça fait du bien. Ensuite parce que dans Allez la rafale, tout le monde s'amuse, s'engueule, s'écharpe de façon communicative, souvent avec une bouteille de vin à la main, le tout dans une bonne humeur genre troisième mi-temps, avec au centre un truculent curé qui préfère l'Ovalie aux hosties. Mais surtout parce que cette série raconte de façon fantaisiste les l'évolution du rugby qui, déjà dans les années 70, voit l'arrivée des entrepreneurs et de leurs valises de billets d'un mauvais œil. Cette série raconte en deux mots la rivalité de deux villages du Sud-Ouest. D'un côté, Sainte-Colombe, ses canards et son équipe de la Rafale, et de l'autre, la Bastide, la capitale de l'Oie, et l'équipe de la Fierté. Il faut dire qu'entre les deux bourgs, outre la guerre des volailles, les tensions sont aussi sur le terrain, surtout depuis qu'un homme d'affaires qui détient conserverie et journal local a investi dans le club de rugby à 15 de la Bastide. Du coup, entre les dirigeants de la Rafale et ceux de la Fierté, les relations se tendent et les visions s'opposent, en particulier entre le petit curé et le gros entrepreneur.
La rafale est pauvre.
Moi aussi j'étais pauvre, et je m'en vante. Tout mon empire je l'ai gagné, vous m'entendez? Gagné!
Il n'y a pas d'enveloppe chez nous, monsieur Puig de la Motte. Tout ce qu'on y gagne au rugby, c'est 50 sacs. 50 sacs de patates ou de ciment à décharger le lundi matin. Tout ce qu'on y attrape, c'est une bonne soif, une oreille en chou-fleur et un maillot bien trempé, histoire de bien transpirer ses péchés. Et le rugby, monsieur, vous n'allez pas nous l'abîmer avec vos millions.
Alors, outre la dimension pittoresque, cette série est plutôt bien construite et documentée. Elle est réalisée par Yannick Andréhi. Elle est écrite par un grand nom de l'audiovisuel, Jean Chouquet, producteur et réalisateur pour la radio et la télévision. Il avait même été conseiller et directeur des programmes ici à France Inter. Mais la série doit aussi surtout à Denis Lalanne, co-scénariste et grand spécialiste du rugby, auteur de plusieurs livres sur le 15 de France, journaliste à l'équipe. Il commentera d'ailleurs à la télévision un match France-Écosse en 1978. Une série amusante à revoir aussi aujourd'hui, car après la défaite face à la Fierté, la rafale doit se ressaisir. Qui sait, peut-être que le 15 de France pourrait tirer quelques conseils de ce bon curé de Sainte-Colombe qui décide de faire partir toute l'équipe en pèlerinage à Lourdes.
C'est bien à Lourdes que nous allons retrouver la foi. Nous allons tous revenir meilleurs que nous ne sommes partis. Et surtout, il y a le grand monument du rugby français. Celui qui nous intéresse, celui que nous allons rencontrer, celui que les Britanniques ont surnommé Monsieur Rugby. Celui qui a fait se lever les foules, qui a fait courir les paralytiques, ce grand capitaine de l'équipe de France qui a fait des miracles à Trigonham et à Colombes. Il y a Jean Prat.
Ouais, Jean Prat, ça y est, j'ai compris. On va voir le pape.
Le pape? Oui, le pape. Le pape. Le pape du rugby d'attaque. Il va nous faire des miracles, vous verrez. Des miracles.
Allez, le 15 de France, nous aussi on y croit, comme le curé Carsabal, interprété par l'excellent comédien Angelo Bardi. Il ne reste plus qu'à l'équipe de France de regarder les 6 épisodes d'Aller la Rafale, puis de se rendre à Lourdes et qui sait peut-être qu'elle pourra à nouveau faire la fierté de notre pays pour la Coupe du Monde de rugby, qui, si Dieu le veut, pourra bien avoir lieu en France en septembre 2023, ce qui laisse aussi un peu de temps aux créateurs, producteurs et diffuseurs français de fabriquer une série contemporaine sur le monde du rugby. Et il y aurait de quoi raconter sur le sujet beaucoup de choses dans une grande et belle série à l'instar de Friday Night Lights. Je sais, je dis ça, je dis rien, hein, en bon entendeur, Xavier.
Merci beaucoup Benoît. En attendant, Aller la Rafale de Yannick André, Jean Chouquet et Denis Lalanne est disponible sur Madeleine, la plateforme de l'INA, riche effectivement en petites pépites d'autrefois. Voilà, donc merci pour cet effet miroir, je vous le dis à nouveau. Alors, vous pouvez la réécouter en podcast, mais vous ne pourrez pas la réécouter cette nuit en rediffusion entre 2h et 3h du matin, puisque cette heure de 2h à 3h du matin disparaît à cause du changement d'horaire, et nous avec. Donc malheureusement...
On rentre dans la quatrième dimension.
Nous, voilà, absolument. En tout cas, vous êtes bien toujours dans une heure en série sur France Inter, avec ce soir Ariane Allard, Christine Haas et le rugbyman du dimanche, Benoît Lagan. Troisième et dernier débat, commandant Bäckström, une série suédoise de 6 épisodes diffusée sur France 3 depuis le 21 mars dans la case très stratégique des séries policières du dimanche soir. Souvent un peu pépère, un peu pantouflard, mais pas désagréable. Le commandant Bäckström n'a pas grand-chose pour lui. Il se la joue toujours solo, affiche un caractère peu amer, adore briller sous les feux de la télévision, humilier ses adversaires. Bon, jusque-là, la ressemblance avec Benoît Lagan est quand même assez inquiétante. Mais pour couronner le tout, et c'est là où vous ne vous ressemblez plus, il est soupçonné d'être un flic ripoux. Mais cet homme à femme qui multiplie les conquêtes est également un enquêteur brillant, possédant le plus haut taux d'affaires résolues de toute la Suède. Le voici donc cette fois aux prises d'une énigme particulièrement étrange. Un cadavre a été découvert dans une île paumée par un jeune garçon qui est aussi le meilleur héros, le meilleur ami de notre héros. Le hic, c'est que la femme découverte est supposée être morte en 2004, soit 15 ans plus tôt, lors du tsunami meurtrier qui avait ravagé la côte thaïlandaise. Bäckström en est convaincu, c'est un meurtre, mais il est un peu le seul.
Pitié ! Non, pitié !
C'était une femme d'origine asiatique et elle a été assassinée. Abattue alors qu'elle était à genoux, d'où l'angle. D'après l'état du crâne, les faits remonteraient à 5 ans. Elle avait 35 ans à l'époque. Enfin, elle était d'une grande beauté, mais là, on est dans le domaine de la subjectivité. Des questions ?
Oui, moi.
Non, pas toi. La question, la voici. Quel est son nom ? Le résultat des analyses ADN risque de nous décevoir. Je veux donc une liste de toutes les femmes disparues en Suède qui répondent évidemment à son signalement. Cette liste, soit dit en passant, ne comprendra pas plus de 10 noms. À la voyure. On y va, Edwin. On va casser la croûte. On l'a bien mérité.
La vache. Comment il fait, le gars ?
C'est le meilleur du monde, tu le savais pas ? À la revoyure !
Commandant Bäckström, une série policière d'après les romans de Leif G.W. Persson, paru chez nous aux éditions Rivage. Et alors, c'est là la minute quand même très embarrassante. Je vais tenter de prononcer dans un suédois de bacotille tout le générique de la série. Et je pense que je vais me ridiculiser pour un long bout de temps. La série est écrite par Jonathan Sjöberg et interprétée par Joel Bergqvist et Agnès Lindström-Bölmgren.
C'est pas mal quand même.
Je sais pas. Christine A. c'est morte de rire. Je pense que je n'ai pas été... Non, très convaincant
non,
dans le suédois.
C'était bien, merci.
Alors, pour Télérama, c'est une série de factures très classiques, ah oui, ça c'est quand même le moins qu'on puisse dire, mais portée par un héros aussi atypique que réjouissant. Nous avons une Miss Marple parmi nous, effectivement, mais en beaucoup plus sexy, bien évidemment.
J'espère que
sympathique. Et je lui cède la parole avec bonheur. Ariane Allard, vous adorez les polars, vous adorez jouer avec vos petites chemises grises qui sont nombreuses en plus.
C'est vrai.
Alors, ce commandant Bäckström a-t-il réussi à vous séduire ?
Alors, on va dire déjà que le récit, je l'ai trouvé quand même très emmêlé. Et j'ai trouvé que les personnes, on va parler évidemment après du commandant, le fameux commandant, et les personnages secondaires, je les ai trouvés quand même pas toujours très bien dessinés. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il manque un peu d'épaisseur, m'a-t-il semblé, mais peut-être que je somnolais déjà aussi, hein, parce que ça peut jouer aussi sur le rapport à la série.
C'est enfin, dimanche soir, c'est normal, voilà, on est fatigué par la semaine.
Donc, c'est vrai que le seul intérêt, en fin de compte, de cette série, si on veut en trouver un, c'est ce personnage.
Vous forcez pas.
Et ce personnage, qu'est-ce qu'il est ? Il est vantard. Il est arrogant, il est sans scrupules, il est sexiste et il est vulgaire. Moi, je ne sais pas comment vous appelez ça dans la vraie vie, mais personnellement, j'appelle ça un sale con. Et donc, que se passe-t-il ? Eh ben, en fait, on est quand même un petit peu accroché au départ et intrigué par lui. Et on se dit, pas mal, il est quand même complètement à côté de la plaque, donc ça peut être intéressant même s'il est odieux. Le problème, c'est que je trouve que ni l'auteur, ni l'acteur, dont je ne répéterai pas le nom après vous, Xavier, car vous l'avez vraiment très bien fait, ni même le réalisateur, puisque c'est quand même très plan-plan, ne parviennent à en faire ce que moi j'appelle un méchant jubilatoire. Vous savez, c'est genre Dr House, par exemple. Et on n'est jamais là-dedans. Il reste un type bellâtre, imbuvable, odieux, sans aucun charme. Et finalement, au bout d'un moment, bah, on somnole, avec juste le goût pour la beauté, je dirais, boréale des îles suédoises. Comme on a tous envie de partir, bah, au moins on se projette et on se dit, ça a l'air sympa comme prochaine destination. Voilà à peu près ce que je peux en penser.
Christine,
mais
notre suédoise de service.
Je ne suis pas d'accord. Bäckström, c'est vrai, n'est jamais où on l'attend. Il perturbe les interrogatoires avec des questions gênantes et imprévisibles, mais il a le gros avantage d'apporter un élément comique et un peu de relief à une trame vraiment classique qui nous plonge dans les arcanes de la police pour suivre de près les enquêtes de proximité, les analyses scientifiques, les jalousies entre les groupes, les rivalités hiérarchiques. Donc, de fausses pistes en digression politique se dessinent finalement une Suède hanté par ses légendes et ses trolls, mais aussi par ses préjugés. Alors, il n'y a pas beaucoup d'émotions, c'est vrai.
C'est une litote, Christine, merci.
Sur ce registre-là.
Elle a le sens de la litote.
Seul, j'ajoute quand même le petit voisin âgé d'une dizaine d'années qui a décidé de marcher sur les traces de Bäckström suscite un peu d'affection, mais progressivement, Bäckström lui-même prend de l'épaisseur. On sent sa fragilité, la vulnérabilité, le passé remonte qui nous le rend plus attachant. Et à ma grande surprise, je me suis laissée gagner par la mélancolie et une certaine tendresse pour ce personnage un peu sec et franchement grossier.
Moi, j'aime bien ces deux équipiers, les deux bras cassés au sens littéral du terme.
Dupont et Olson.
On est d'accord, ce sont des personnages d'arrière-plan qui n'apportent pas grand-chose à la narration.
Ça
mais
fait
je
un peu
que...
m'aider.
Ouais, mais ça ne me dérange pas, parce que ça fait partie du charme de la série. Benoît.
Oui, alors pour ceux qui aiment les polars suédois genre The Killing, passez votre chemin.
Oui, ben voilà,
parce que ça n'a rien à voir. C'est complètement autre chose. On est vraiment dans une série, effectivement, plus comique qu'en fait policière. Moi, ça me fait plus marrer qu'autre chose. Après, on a dit, c'est classique. Le personnage, je suis d'accord avec Ariane, il n'arrive pas à la cheville d'un Dr House.
Mais ouais.
Et d'autant plus que je trouve que la série, sans rien dévoiler, mais la série va petit à petit quand même nous faire croire qu'en fait, il est pire. Il est déjà un sale con. Mais en fait, on va penser qu'il est pire que ça. Et en fait, à la fin, on va voir qu'en fait, il est peut-être pas si pire. Enfin bref, bon, la série nous sauve quand même ce personnage. Moi, tout ça, bon d'accord, très bien. On passe un dimanche soir sympathique. Moi, mon problème, c'est que l'enquête, je finis par m'en lasser et j'en ai plus rien à faire. Et surtout, moi, je vois les trous béants de ce que la série aurait pu raconter. On nous parle du tsunami en Asie. Qu'est-ce que la série aurait pu... J'essaie d'imaginer ce que la série aurait pu raconter si elle avait été au bout, comme dans une série comme The Killing, sur le tourisme des Occidentaux en Asie, sur le traitement de certaines populations en Suède. Rien n'est raconté là-dessus, c'est juste un élément de décor. Ça permet d'avoir notre Serge Commandant en Asie, à un moment donné, avec sa petite chemise hawaïenne, et voilà. Et ça se limite à ça. Et c'est bien dommage. Il en reste que la série est agréable à regarder pour les personnes secondaire truculent, mais c'est vrai que les Olson et Olson, les fameux Dupont et Dupondé, enfin, ça marche très très bien. Les personnages féminins sont, eux, en revanche, sous-exploités. Je trouve, alors que il y a des choses qui se dessinent à travers leurs échanges et leurs bagarres avec le commandant Bäckström. Et sauf que là, du coup, on aimerait en savoir un petit peu plus sur elle. Et peut-être que l'émotion là arriverait. De la même manière que l'enfant, au fond, l'enfant n'est là que pour faire avancer un petit peu le récit et nous permettre de nous attendrir un peu sur le personnage quand vraiment c'est trop un sale con. Malheureusement, ça manque de beaucoup de choses. C'est dommage.
Christine, un dernier mot pour essayer de sauver commandant Bäckström. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous.
Je trouve que ça a du charme. Il est vraiment drôle. Il est là pour apporter un peu d'ironie à cette affaire. C'est sûr que le fond de l'affaire, on s'en fiche complètement. Mais quand il va en Asie, c'est essentiellement pour rencontrer un flic qui est son exact opposé, qui est un bon père de famille, qui est honnête, qui est agréable.
Sauf que ça pourrait être ailleurs. Et de la même manière que ce qui est montré sur les médias, parce que ce fameux flic est par ailleurs expert, une vedette de la télévision, il y a des tas de choses qui auraient pu être racontées sur la place place que prend le fait divers à la télévision, la façon dont la télévision vient s'ingérer dans une mécanique policière. Enfin, tout ça aurait pu être beaucoup plus traité, mais c'est pas le sujet.
Ça reste un polar, un peu labyrinthique, un peu retors.
Pour les fans, sachez quand même que la série a été créée à la télévision américaine, hein, aussi.
Oui, c'est la première adaptation, effectivement, des romans.
Adaptée avec Rainn Wilson, qui est l'acteur qu'on voyait dans The Office, qui a fait 13 fois 42 minutes et qui se déroulait à Portland. Bon, voilà.
Voilà, mais retour au pays pour le commandant Beckström, que vous pouvez voir donc depuis la semaine dernière sur France 3.
Time goes by, so slowly, 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 time goes by, so slowly.
Arrêtez de danser, Xavier.
Madonna. Alors, je suis désespéré. Je crois que j'ai autour de cette table les trois seules personnes au monde capables de résister à ce tube. Moi, je n'ai pas arrêté de me tourner. Vous étiez encore en train de parler de commandant Beckström. Mais les enfants, vivez un peu quand même. Soyez jeunes une fois dans votre vie. Madonna, Hang Up, hommage aux leggings, aux ghetto plaster et au grand écart. J'ai tout essayé et j'ai tout raté. La reine de la piste de danse emprunte et réinvente Gimme, 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 bien sûr, le tube du groupe suédois ABBA, en se le réappropriant brillamment, extrait de son album Confessions on a Dance Floor, sorti en 2005. Et je vais changer d'équipe parce que là, franchement, dans le genre rabat-joie.
France Inter. Une heure en série.
Je sais même pas si vous avez mérité le plateau télé. Je sais même pas. Là, franchement, vous m'avez tellement déçu. Bon, allez, on y va quand même. Christine, oui. Ça tombe bien, vous allez nous parler de Fluide.
Oui, alors Fluide est
qui
une...
Qui passe sur Arte.
Ouais, qui passe sur Arte, c'est une web-série sur Arte, 10 épisodes entre 5 et 7 minutes, donc on peut les regarder en une seule fois, pour découvrir les expériences sexuelles, variations, figures libres de deux jeunes couples qui décident de vivre selon leurs désirs. Donc Léo vit avec la pharmacienne Emma, il crée des BD avec son ami Waël, qui lui vit avec la prof Esther. Leur quotidien est tranquille, voire ennuyeux, mais tout bascule le jour où Emma annonce à Léo qu'elle a un truc pas trop grave à lui dire, mais qui commence par « Je t'appartiens pas, tu m'appartiens pas, donc je t'informe que je te désire, mais je désire aussi une collègue de travail. » Donc, troublé, Léo va se confier à son ami Waël et du coup, ils vont décider de quitter le monde de l'héroïque fantasy afin de documenter ce qu'ils appellent la révolution du couple contemporain dans leur BD. Cela sera inspiré de la vraie vie, mais aussi de la fiction, sauf que le désir d'Emma va provoquer un effet domino qui va carrément secouer le quatuor. Alors, entre l'envie de s'émanciper, le désir d'expérimentation, le besoin de stabilité émotionnelle, le polyamour va s'avérer plus complexe que prévu et fluide, décortique avec finesse les affres de l'amour libre à travers une succession de retournements de situation, c'est le cas de le dire, qui vont questionner...
J'aime bien le mot retournement de situation, c'est pas du tout équivoque.
Qui vont questionner la capacité d'être accompli et heureux, seul ou à deux. Bref, Thomas Cadenne et Joseph Safidine, qui sont auteurs de BD, retrouvent ici leurs interrogations, étonnements et plaisirs éphémères qu'on avait vu dans leur précédente série Été, conçue par Instagram. Ils signent une fantaisie sexuelle drôle, tendre, jamais vulgaire.
Très bien, excellent conseil. Fluide sur Arte. Ferez-vous aussi bien, chère Ariane Allard, moins drôle quand même, mais excellente série, Cry Wolf sur Salto.
Oui, alors là, c'est vrai que là, je vous embarque sur une mini-série qui est danoise, cette fois-ci, pas suédoise, mais danoise, et qui s'empare d'un sujet, on va dire, peu propice à la légèreté, puisqu'il traite des violences masculines et intrafamiliales. Donc, c'est un sujet malheureusement brûlant, hein, puisque en cette période de confinement répété, on le sait, pour les femmes, c'est encore plus violent. Et puis, un sujet surtout qui mérite d'être sondé avec subtilité, et je vous rassure, c'est le cas. Alors, le sujet, c'est tout démarre lorsque Holly, une frêle adolescente de 14 ans, dénonce dans une rédaction au collège les violences que son beau-père lui fait subir. Elle est aussitôt placée dans un foyer avec son petit frère par Lars, un travailleur social aux allures de bon gros géant. De fait, Lars la croit sur parole. Le souci, c'est que le beau-père, comme la mère de Holly, nie en bloc ses accusations. D'ailleurs, même son petit frère n'a qu'une idée en tête, c'est de rentrer chez lui. En l'absence de preuves, le doute commence donc à s'insinuer, aussi bien dans la tête de Lars que dans la nôtre, bien sûr, puisque le récit qui choisit en plus de prendre son temps avec beaucoup de finesse oppose les points de vue de l'ensemble des protagonistes. Qui dit la vérité ? Que doit-on entendre derrière la détresse de Holly ? Que doit-on comprendre aussi des dénégations affolées de ses parents ? En fait, comment décrypter la parole d'un enfant et comment surtout le protéger ? Ce sont les questions lancinantes, parfois malaisantes aussi, qui hantent ce drame qui est tendu comme un arc du début jusqu'à la fin. Alors oui, bon, il y a du suspense et c'est peut-être un petit peu la faiblesse, c'est toujours le problème d'ailleurs de mettre du suspense dans ce genre de récit. Mais en même temps, je trouve qu'il est inattaquable, notamment dans sa mise en scène qui est exempte de tout effet. Et ne serait-ce que pour cela, il ne faut pas hésiter à braver l'âpreté quand même de ce drame social. Je tiens à dire en passant et pour finir qu'il a été créé par Maya Juul Larsen, qui était une des scénaristes sur la série danoise fameuse et formidable Borgen. Et c'est sur Salto. Est-ce que je l'ai dit ? Je ne m'en rappelle plus.
Je l'avais dit en vous cédant la parole, mais c'est une très bonne idée, rappelons-le de toute façon. Donc, plateau télé, fluide sur Arte, le polyamour sexuel, et puis effectivement, plus violence. Tragique, mais tout aussi intéressant, Cry Wolf sur Salto.
C'est pas très drôle, moi.
Oui, alors quand c'est rouge, généralement en radio, ça signifie que nous sommes à l'antenne, donc il y a quelqu'un qui a dû vous entendre. Enfin, j'espère plusieurs personnes. Une heure en série, c'est fini, si vous me permettez, hein, chère Ariane. Mille merci à vous, chère Ariane, Christine et Benoît d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté
merci
ce
Xavier.
Soir. Nous vous avons recommandé ou pas, Caïd sur Netflix, Stage sur Canal+, et Commandant Beckström sur France 3. Promis, j'arrête le suédois pour les deux mois qui viennent. La semaine prochaine, nous évoquerons Sky Roro sur Netflix et Un homme d'honneur sur TF1. Demain soir, rendez-vous 20h avec Jérôme Garcin et Le Masque et la Plume, consacré à l'actualité littéraire. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast. Pas de rediffusion cette nuit, puisque malheureusement nous tombons dans l'heure qui disparaît, mais nous vous retrouverons la semaine prochaine dans la nuit de samedi et dimanche. Il y a un site internet où vous pouvez évidemment consulter l'intégralité du programme, nous envoyer des courriers. Cette émission a été réalisée comme chaque semaine par Marie-Annick Rimbaud, programmée musicalement par Muriel Pérez. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Amel Caldi et Emma Ferré, et à la technique ce soir, Arnaud Caillé.